Le tandem Europe 1.
Stéphanie Loire, Bruno Donnet.
Que signifie pour vous le mot vacances?
Bah, l'arrêt complet du travail.
Et quel rêve il évoque?
Bah, partir en vacances au bord de la mer, se reposer.
Alors bien sûr, un 27 août, évoquer les vacances, ça peut paraître audacieux. Audacieux, car pour la plupart d'entre nous, disons les choses clairement, on est souvent plus proche de la fin que du début.
On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons.
Seulement voilà, n'en déplaise aux prédictions rabat-joie du président de la République, celles qu'on a prises en pleine poire au beau milieu de la semaine.
Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
Et qu'on a cru tout droit copier sur les remises à l'heure de Bernard Blier dans Un idiot à Paris.
Fini les vacances au crottoir, fini le tiercé.
La fin des vacances, ici, on n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout, envie d'y croire. Alors, eh bien alors, pendant encore une heure, on va se réfugier dans le déni le plus absolu, considérer qu'on est toujours au mois d'août et enfiler notre plus beau bikini. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le tandem estival d'Europe 1 qui va donc arpenter ce matin un reposant petit chemin de traverse, celui de l'évolution du discours sur les vacances. Et pour m'accompagner jusqu'à 10h, je salue comme tous les samedis ma camarade de villégiature. Bonjour à vous, chère Stéphanie Loire.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Je suis ravie d'embarquer sur le tandem avec vous une fois de plus.
Alors dans cette émission, vous entendrez un historien, Yvan Jablonka, qui a commis un livre, un très joli documentaire sur l'une des figures mythique des vacances, le camping-car, et un auteur, Alain Pozzioli, qui s'est intéressé pour sa part à un genre musical très rafraîchissant, le tube de l'été.
Tandem sur Europe 1. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Et le premier qui va prendre place à bord de notre frêle embarcation est un grand penseur de la civilisation des loisirs. Il est directeur associé au CEVIPOF, c'est le Centre de Recherche Politique de Sciences Po Paris. Il a publié de nombreux ouvrages consacrés aux vacances et le dernier en date, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube, s'intitule « L'an zéro du tourisme ». Bonjour à vous, cher Jean Viard.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'aimerais vous faire entendre un document. On est en 1936, le 8 juin pour être précis, le Front Populaire vient tout juste de remporter les élections législatives. Le président du Conseil s'appelle Léon Blum et voici ce qu'il annonce au sujet des accords de Matignon.
Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Parmi les projets dont il annoncera le dépôt immédiat figure la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier.
Si je vous ai bien lu, Jean Viard, les congés payés n'étaient pas en 1936 une demande des travailleurs. Léon Blum est allé au-delà de leurs revendications.
Oui, tout à fait. En fait, c'était une demande des gens qui en avaient déjà. Notamment les radicaux, c'était surtout des avocats, des gens comme ça, Léon Blum, Jean Zay, ceux qui ont laissé leur nom au stade, Léo Lagrange, etc. C'est-à-dire au fond des populations du monde enseignant. Donc il y avait des gens qui avaient déjà des vacances, mais c'était plutôt dans ces milieux-là. Dans les milieux ouvriers, je vais vous dire, l'idée d'avoir 8 ou 15 jours où on ne travaillait pas, il y avait deux modèles, il y avait la maladie et il y avait le chômage. Et donc, si vous voulez, la grande revendication, c'était les 40 heures et les conventions collectives, comme il a été dit, mais il n'y avait pas une demande forte sur les vacances. Et d'ailleurs, il y a eu des peurs du vide au moment des vacances. Par exemple, prenons qu'un exemple, c'est Strasbourg, où les syndicats et l'évêché organisent une grande marche jusqu'à la Schlourde, qui est le col qui domine Strasbourg dans les Vosges, si vous voulez, pour faire un projet pour pas que les gens s'angoissent de ce vide.
Alors je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'une ouvrière qui a raconté à la télévision le souvenir qu'elle a conservé de ses tout premiers congés payés en août 1936.
C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Avec les cousins et puis les cousines, on allait se baigner, on se promenait. Et puis une chose qui m'est aussi restée, mon oncle nous avait amenés au champ de course, parce qu'il y avait les courses à Deauville. Ben vous savez, les ouvriers, on n'avait jamais vu ça. Ils nous amenaient et puis ils nous présentaient au compte d'un tel, au compte d'un tel, c'est mes nièces, c'est si. Et ça, vous pensez qu'on était fiers en revenant à l'atelier de dire on a été au champ de course de Deauville.
Jean Viard, durant tout le 19e siècle, la vocation des vacances était de reconstituer ses forces de travail parce qu'on travaillait 10 heures par jour et qu'on était un peu au bout du rouleau. Qu'est-ce que les congés payés ont changé dans la vie des Français?
dans la vie des gens, c'est devenu le grand lieu de cristallisation de tout ce qui n'est pas le travail. Vous voyez, avant, il y avait déjà des fêtes, il y avait des fêtes des territoires, il y avait les fêtes des corporations, il y avait déjà des moments, il y avait le carnaval, il y avait déjà des ruptures. Mais au fond, tous ces temps-là ont été réorganisés dans les vacances, dans le monde entier, mais d'abord en Europe. Et au fond, maintenant, les vacances, c'est le temps libre des sociétés qui représente, je rappelle, on ne travaille que 10% de son existence en temps. Donc.
Alors, très tôt dans notre petite histoire contemporaine, les vacances ont intéressé également les artistes. Et ça, c'est votre affaire, Stéphanie Loire.
Tout à fait.
Vous avez déniché quelques-uns de ceux qui ont chanté leur amour des vacances.
Et dans ma valise de vacances, Charles Trenet, le fou chantant,
et un
titre dans lequel il est question d'optimisme automobile. À l'été 1955, National 7 résonne dans tous les postes de radio. Trenet est un usager régulier de la plus célèbre route nationale française. Pas forcément la plus fréquentée, mais celle en tout cas qui symbolise la route des vacances. 996 km de Paris à Menton.
National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7.
Et s'agissant de Charles Trenet, il y a en fait toute une partie de son répertoire qui est une véritable invitation au voyage.
Et parmi ces nombreuses chansons qui invitent au voyage, L'oiseau des vacances, Quand nous irons en vacances, et puis bien sûr son immense tube, La mer.
La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer.
Si vous voulez, ce que vous nous avez fait écouter, c'est au fond la construction d'une culture en train d'émerger. Tout ça n'existait pas. La mer, par exemple. Mais la mer, c'était la salle de bain des ouvriers. Prenez les mers autour des grandes villes comme Marseille. Il a fallu chasser les hommes qui venaient se laver tout nus sur les plages. Ils n'avaient pas l'eau courante. Et donc les hommes venaient tout nus, ils se frottaient avec le sable, etc. sur les plages. Ça avait une autre utilité sociale. Et petit à petit, on a fait interdit celle-là pour en mettre une autre. Et au fond, si vous voulez, c'est tout cet imaginaire qu'on voit aussi d'ailleurs dans la peinture, tout le rôle des peintures de marine, et puis dans le cinéma, avec la maison de famille, qui est un des grands mythes du cinéma de la même époque. On voit effectivement à l'œuvre une mise en désir d'un monde qui n'existait pas, et on voit le rôle d'ailleurs qu'a la chanson dans cette construction.
En préparant cette émission, Jean-Vierre, j'ai mis la main sur une interview du photographe Robert Doisneau. Elle date de 1975, et il parle de ce que représentaient pour lui les vacances à l'époque à laquelle il était ouvrier.
En réalité, c'est le seul moment de la vie où, quand on travaille dans une usine comme j'ai travaillé 5 ans chez Renault, c'était le seul moment où on avait droit à l'initiative. Alors là, c'était le délire total.
Voilà, Robert Doisneau parle du droit à l'initiative. Alors ça m'a fait penser au philosophe Sénèque qui disait « Il faut être maître de son temps ». Pourquoi les vacances sont-elles si importantes pour les humains travailleurs que nous sommes, Jean Viard ?
Parce qu'on est sorti du monde tayloriste de l'usine, au fond. Parce qu'avant, on était dans les sociétés agricoles. Donc, il y avait des rythmes. L'hiver, on ne travaillait pas. Il y avait des fêtes, champagne, la fin des moissons, il y avait toujours des grands bals, etc. Donc, je dirais qu'on était dans le rythme de nature avec ses hauts et ses bas, ses creux, on peut dire. Vous voyez, il y avait des creux. Quand il pleuvait, on restait à la maison, etc. Et nous, on est resté en monde industriel. Et donc, il a fallu réinventer un ordre du temps. Mais il faut dire les choses. Le dimanche n'a été férié qu'en 1906. Avant, au 19e, il n'y avait pas de jour férié du tout. Donc, si vous voulez, on a vraiment reconstruit un cadre du temps libre où, effectivement, comme le dit très bien Doisneau, au fond, on se réapproprie son temps.
En 1975, toujours, le cinéaste Claude Chabrol, cette fois, était lui aussi passé à la question. Et voici la définition qu'il donnait de ses vacances.
Pendant mes vacances, je ne fais rien. Je ne fais strictement rien. Je fais un tour de village, je reviens, je ne pense strictement à rien. C'est très agréable.
Alors, j'ai sélectionné cet extrait parce qu'il m'a semblé très à contre-courant, Claude Chabrol. Il est généralement de bon ton de valoriser ses vacances. On est presque obligé de les réussir à tout prix. Comment expliquez-vous, Jean Viard, que ce soit installé petit à petit une forme d'injonction à avoir des vacances super durant lesquelles on a forcément fait des choses formidables ?
mais parce qu'on est rentré dans une civilisation de la performance, dans le travail, dans le temps libre, dans le lit, etc., absolument incroyable, notamment au début du XXe siècle. Et si vous voulez, je pense d'ailleurs que la pandémie nous fait débrancher de tout ça. Hein. Et c'est pour ça que Claude Chabrol a évidemment raison. Le rôle des vacances, c'est au fond, c'est de se débrancher autant que de se reposer.
Alors sur ce sujet, Stéphanie Loire, vous vouliez nous faire entendre une icône des années 60.
Oui, en 62 précisément, alors qu'on est en pleine vague yéyé, Sylvie Vartan interprète Les vacances se suivent.
Allez savoir pourquoi, allez savoir comment, les vacances se suivent, se suivent,
se suivent, se suivent,
mais ne se ressemblent pas.
Jean Viard, au sujet de cette répétition des vacances, pourquoi est-ce qu'on va bien souvent finalement au même endroit ?
Mais parce que si vous voulez, je crois qu'il y a deux phénomènes différents. Il y a la transhumance, on va dire d'été. Moi j'appelle ça une transhumance comme pour les moutons, vous voyez. Parce qu'en fait, on va toujours à peu près au même endroit. On va souvent dans la région plus ou moins d'origine de la famille. C'est le cœur des vacances, c'est quand même familial. 70% des gens vont dans leur famille. Et on va souvent là où on a été enfant. On se baigne souvent toujours sur la même plage, y compris pour des raisons de sécurité, parce qu'on sait s'il y a des courants, s'il n'y en a pas. Le gros problème des vacances, c'est la sécurité pour les enfants, évidemment, donc puisqu'on est en famille. Donc, il y a tout ça qui joue. Mais parce que c'est un plaisir, cette répétition. Quand vous arrivez à la station et que le boulanger vous dit « Ah, mais Marcel, vous êtes revenu, quel plaisir de vous voir. » Vous avez gagné votre journée.
Jean Vierge, j'ai une toute dernière question à vous poser. On est le 27 août. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque les vacances se terminent ?
Ben, il faut les avoir réussis. Le problème, des vacances ratées, c'est terrible parce que dans la plupart des milieux, il y a 20% des gens qui partent plusieurs fois. Mais les autres, non, ils partent qu'une fois. Et le souvenir de vacances, quand vous demandez aux gens, c'est quoi ton meilleur souvenir de l'année dernière, à tous les coups, vous tombez sur un souvenir de vacances. Si vous n'avez aucun souvenir de vacances, ou s'ils étaient négatifs, vous êtes engueulé, tout ça, il a plu, j'en sais rien. Moi. Effectivement, ben, c'est presque un peu comme si vous avez gâché une année, parce qu'il va falloir une année pour tenter de réussir ses vacances. On ne peut pas le faire entre les deux. Donc je dirais que c'est ça. Mais en même temps, il y a une excitation de la rentrée. C'est comme les enfants. Ils adorent, ils font leur cartable, etc. Et je pense qu'on a ça aussi parce qu'on redémarre. On redémarre en activité. On est en forme, on est bronzé, on est beau. Donc il y a tout ça. Il faut voir cette vie qui va ressurgir comme une source qu'on remet en marche et qui jaillit à nouveau. C'est ça aussi la fin des vacances.
On vous laisse cirer votre cartable et on vous remercie infiniment.
Merci, au revoir Jean-Vierre.
Bonne journée.
Merci.
À vous. Dans un instant, c'est un historien qui va se joindre à nous car il a écrit un livre et réalisé un merveilleux documentaire sur un objet culte de nos vacances, le camping-car. Yvan Jablonka arrive. À tout de suite.
Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire, Tandem.
Europe 1, Tandem. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem d'Europe 1 qui essaye ce matin de prolonger les vacances et qui pédale pour tenter de semer cette satanée rentrée qui nous souffle déjà dans le cou. Alors vous le savez, hein, dans cette émission, nous aimons les symboles, les objets culturels. Roland Barthes aurait dit les mythes qui racontent à eux seuls le sujet que nous évoquons. Et quoi de mieux que le camping-car pour incarner les vacances ? Maison roulante et miniature, bien plus pratique que la caravane, le camping-car est un symbole de liberté, d'agilité estivale. Et l'homme qui va maintenant nous rejoindre lui a consacré un livre formidable que la chaîne France 5 a même prolongé par un documentaire. Il est historien, professeur à l'Université Paris 13 et auteur donc d'un récit intitulé « En camping-car ». Bonjour à vous, Yvan Jablonka.
Bonjour.
Et merci de nous avoir rejoints. Alors pour tenter tout de suite d'entrer dans le vif du sujet et de comprendre de quel objet nous parlons, je vous propose de faire un petit détour par l'Allemagne et une publicité des années 70 pour le fameux combi Volkswagen.
Was glauben Sie, wie stolz der Xaver ist? Endlich hat ihn, sein VW Kombi. Übrigens, für Sie steht auch einer bereit.
Und wo?
Na, bei mir, Ihrem Volkswagen-Händler.
Voilà, alors c'était ça, hein, Yvan Jablonka, votre camping-car. Un combi Volkswagen, pour quelle raison ce véhicule-là est-il devenu un mythe ?
Je pense que c'est d'abord un objet qui est extrêmement pratique. Il y a une espèce de génie du confort avec un petit frigidaire, des petites penderies. Et il y a comme une maison de poupée qui convenait parfaitement bien à nos vacances. Cette archive est frappante parce qu'elle nous rappelle que l'histoire du combi Volkswagen a commencé bien avant la Deuxième Guerre mondiale. dans les années 30 et au moment du nazisme. Alors, je ne voudrais pas obscurcir nos souvenirs d'été avec ces faits historiques, mais en tout cas, pour ma famille, c'était important parce que le camping-car, qui était un voyage vers le soleil, la mer, le bonheur, venait en quelque sorte inverser la déportation vers Auschwitz subie par mes grands-parents.
C'est ça, il faut que je précise une chose, hein. Vous êtes un petit-fils de déporté, c'est votre père qui conduisait ce combi allemand. C'était quoi, une sorte de réconciliation historique, une façon de faire la paix dans votre famille ?
Je ne pense pas que mon père le pensait de cette manière, mais quand même, vous avez raison, le rapprochement est très frappant. C'est-à-dire que ce fils de déporté, lui-même victime, puisqu'il a échappé tout enfant à la rafle du Veldiv, eh bien mon père, oui, roulait en combi Volkswagen.
Alors j'ai trouvé votre récit et le film que vous avez réalisé avec Andrés Jarak absolument remarquable, parce que vous y racontez d'abord une époque, celle du tout début des années 80, celle où le temps libre va devenir un sujet politique, au point que François Mitterrand va lui dédier un ministère. Oui, oui, carrément. Et en 1981, le ministre du temps libre s'appelle donc André Henry. Et il explique devant la presse sa mission.
Le ministère du temps libre représente une grande ambition pour ce gouvernement de la gauche. Et il exprime la volonté souvent annoncée par le président de la République et par le Premier ministre de donner la possibilité aux hommes et aux femmes de notre pays de mieux maîtriser leur temps.
Yvon Jablonka, est-ce que comme les congés payés du Front populaire de 1936, le temps libre de 1981 est un moment important de ce que Jean Viard appelait tout à l'heure la civilisation des loisirs ?
Oui, je pense que c'est un thème qui s'inscrit profondément dans la pensée de gauche au XXe siècle. Et vous avez raison de dire que ça remonte au moins au Front populaire et à ses célèbres congés payés. Et en ce sens, on voit que le camping-car était d'une certaine manière politique.
Alors pour préparer cette émission, Yvon Jablonka, je vous ai demandé à quoi ressemblait la bande-son de vos vacances en camping-car et vous avez choisi Renault et cet extrait de Marche à l'ombre.
Quand le babacool Kralok est sorti de son bus Volkswagen qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariol qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou au Népal.
Le babacool Kradok sorti de son bus Volkswagen, c'était qui, Yvon Jablonka ?
C'était pas mon père, en tout cas, mais j'adore cette chanson, et d'ailleurs j'adore toute l'œuvre de Renaud. Et ça nous rappelle justement que le camping-car s'inscrit dans un mouvement de libération des mœurs, puisque tout l'art de Renault est très lié à mai 68, au mouvement des routards, au célèbre guide qui porte le même nom et qui est cité dans la chanson. Et tout ça a pour correspondant aux États-Unis les mouvements californiens de libération des mœurs et aussi les hippies et le flower power. Et il y a, tout le monde a en tête ces images du combi Volkswagen avec des images, des fleurs, des couleurs très acidulées qui renvoient à la fois à l'été et à ce sentiment de liberté. Et ça montre là encore que le camping-car s'inscrit dans des courants à la fois artistiques et intellectuels.
Alors on évoquait tout à l'heure, Yvon Jablonka, la bande-son de vos vacances. Et outre Renaud, il y avait aussi Carmen de Bizet, et plus particulièrement la toute fin de l'acte 2, où il est bien sûr question de liberté. Pour quelle raison est-ce que le camping-car est pour vous un objet à ce point associé à la liberté ?
Je crois que le camping-car, c'est un symbole de liberté parce qu'il permet de s'arrêter où on veut et de repartir aussitôt. Le principe du camping, sauvage ou dans des lieux plus officiels, c'est de s'arrêter le soir et de repartir dès le matin. Et ça, c'est quelque chose que ne permet pas d'autres villégiatures comme l'hôtel, par exemple, où tout est beaucoup plus organisé et en ce sens doit s'inscrire dans un emploi du temps et une organisation préalable aux vacances. Là, on était complètement libre et dès qu'on se sentait à l'étroit dans une forêt, une pinède ou un rivage, eh ben, on pouvait repartir. Donc ça donnait un sentiment intense de n'appartenir qu'à soi-même.
Alors on va rester dans le registre musical, car vous, Stéphanie Loire, vous avez une tendresse toute particulière pour un album concept qui a pour toile de fond la route et les grands espaces.
Je voulais vous parler de De Película, qui signifie un film en espagnol. C'est une fusion entre Laurent Garnier et les rockers psychédéliques de The Liminianas. Ils se sont associés pour un disque pensé comme la bande-son d'un film qui retrace le parcours chaotique et les amours contrariés de deux ados en cavale.
J'avais rendez-vous dans la caravane blanche et rouge de Juliette. Une prostituée de la rue Paratia.
Les Liminianas, c'est les champions de la boucle. Hein.
Ouais, ils sont très très forts. Dans l'un des titres, on entend la voix douce grave de Bertrand Belin. J'avoue avoir une tendresse particulière pour ce titre-là. C'est Au début, c'était le début.
Au début, c'était le début. Plus vite, ce fut la suite.
Les vacances en camping-car, ça raconte une époque. Yvan Jablonka, ça raconte aussi une forme d'anticonformisme.
Oui, ça rappelle qu'on choisit toujours ses vacances et d'une certaine manière, nos vacances nous ressemblent. Moi, par exemple, je ne suis jamais allé dans une maison de campagne tout simplement parce qu'on n'en possédait pas, parce qu'on est une famille de déracinés ballottés par l'histoire et j'enviais un petit peu ceux qui avaient une grand-mère en Bourgogne ou un oncle en Bretagne. Moi, ce n'était pas mon cas et je trouve que ce camping-car, c'était une fidélité au passé, plus exactement aux routes de l'exil qui ont façonné ma famille.
Alors, vous parliez d'anticonformisme à l'instant, Yvan Jablonka, mais j'aimerais qu'on écoute quand même une petite archive qui figure dans le documentaire que vous avez co-réalisé.
C'est beaucoup plus exigu, on a beaucoup moins de ménage à faire. Puis, pour les repas, on se contente d'un petit beefsteak, d'un légume, enfin, c'est plus facile. Nous n'avons que, par exemple, un mois de vacances et nous allons très loin avec beaucoup plus de facilité, de liberté. Nous faisons 8 à 10 000 km pendant ce mois-là. Eh bien, on ne pourrait pas le faire avec une petite voiture.
Alors, j'ai beaucoup aimé cet extrait parce qu'on est au début des années 80 et dans les camping-cars, bah, c'est quand même les papas qui conduisent, hein, qui relèvent le toit du combi parce que c'est un peu physique juste avant de dormir, et les mamans qui cuisinent et qui s'occupent des enfants. Bon, c'est pas totalement anticonformiste finalement comme modèle.
Oui, vous avez tout à fait raison et le moment de lever le toit du camping-car est un moment particulièrement important. Quand j'ai été capable de le faire physiquement, j'avais à peu près 15 ans parce que c'est assez lourd de lever le toit du camping-car, et ça a été pour moi un véritable rite de passage. Je devenais davantage qu'un adolescent, je devenais un homme en quelque sorte.
Stéphanie Loire, on va terminer cette séquence roulante avec vous parce qu'il existe désormais des playlists pour faire la route. Hein, toutes les plateformes en proposent, et pas seulement en été.
Quand on part en road trip, vous le savez, Yvan Jablonka, à travers le monde en particulier, le choix de la musique, il est très très important. C'est un sujet éminemment sérieux, et d'ailleurs, en effet, la plateforme Spotify a mené une enquête, examiné des centaines de playlists dédiées au road trip afin d'identifier les chansons qui revenaient le plus souvent. Je vous en propose quelques-unes. Un classement qui met à l'honneur le rock, puisqu'au sommet de ce classement des 25 titres les plus écoutés sur la route, on retrouve la chanson Mr. Brightside du groupe The Killers. Pour la suite de ce classement, à la seconde place, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, plébiscité pour fouler les routes du sud des États-Unis.
On a fait des cartes postales d'Alabama.
Ça donne envie de manger des kilomètres en tout cas. Et enfin, un titre du groupe originaire de San Francisco, The Journey. Il s'agit de Don't Stop Believin'.
I smell a wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Yvan Jablonka, camping-car. Comment se fait le choix de la musique dans un camping-car en famille? Est-ce que c'est collégial? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est une tyrannie?
Non, c'était pas une démocratie comme souvent dans les familles. Et ce qui n'était pas non plus une démocratie, c'est qu'on était obligé d'aller dans les musées. Et j'en ai beaucoup voulu à mes parents. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis le même tyran qu'eux. Et je force mes filles à entrer avec nous dans les musées, les ruines et autres sites touristiques.
Yvan Jablonka, dans votre livre, vous faites une distinction entre les vacances mainstream, c'est celles des autres, hein, et les vôtres. Et surtout, entre le camping traditionnel, vous en avez parlé il y a un instant, et le camping sauvage que le camping-car permettait de pratiquer. Pourquoi est-ce que c'est une distinction importante d'après vous ?
Parce que le camping sauvage apporte un supplément de liberté. Et puis le camping sauvage vous place au contact même de la nature, que ce soit sous la forme d'une forêt, d'un rivage ou des arbres tout simplement. Et moi je me souviens que quand on faisait du camping sauvage et que je dormais en haut du camping-car, quand j'ouvrais l'espèce de demi-lune de tissu, j'étais immédiatement au contact de cette vie sauvage, de cette wilderness que j'ai appris à aimer, mais aussi à respecter. Et en ce sens, le camping-car, c'était de l'écologie avant l'heure.
Merci infiniment et bonne journée à vous.
Merci.
À suivre, on va parler musique et plus précisément tube. Tube de l'été avec un homme qui a compilé dans un très beau livre ses 150 morceaux estivaux favoris. L'auteur Alain Pozzioli s'apprête à enfourcher le tandem. A tout de suite.
Europe 1, tandem. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem d'Europe 1 qui arpente ce matin l'évolution du discours sur les vacances et qui scrute quelques-uns des objets culturels les plus emblématiques de la période estivale. Et pour négocier le tout dernier virage de notre joyeuse promenade sonore, nous allons maintenant voyager en compagnie de quelqu'un qui a mis sa plume au service de nos oreilles. Il s'est penché sur un objet musical quasi constitutif de nos vacances, ou en tout cas de la mémoire que l'on en conserve, le tube de l'été. Il est écrivain, spécialiste du fantastique, et il a fait paraître en 2020, avec son camarade Jean-Marie Potier, un ouvrage remarquable intitulé « 101 tubes de l'été » dans lequel il passe en revue les plus grands succès musicaux estivaux. Bonjour à vous, Alain Pozzioli.
Bonjour.
Alors avant d'aller plus loin et d'écouter avec vous ces chansons qui ont marqué les étés de ces 60 dernières années, j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient ce mot tube, qui a popularisé le terme de tube de l'été.
Alors curieusement, c'est Boris Vian qui a donné ce titre un peu péjoratif aux chansons, disons, populaires, parce que Boris Vian était quand même avant tout un jazzman. Mmh. Donc pour lui, c'était un petit peu, ça voulait un peu dire que c'était des chansons creuses qui n'avaient pas beaucoup de sens. Mm-hmm. Une chanson qui marche est considérée comme un tube.
Est-ce qu'il est exact qu'avant lui, on appelait ça un saucisson ?
Oui, également, ouais, ouais, ouais.
Pourquoi ?
Alors la raison est peut-être un peu plus obscure. C'est peut-être que ça, c'est de la chanson au kilomètre qui se coupe en rondelles et qui. Enfin, c'est pas très clair en fait.
Voilà, vous l'avez dit, hein, Alain Pozzioli, c'est Boris Vian donc, qui a porté le terme de tube sur les fonts baptismaux. Et à ce sujet, Stéphanie Loire, vous avez mis la main sur une petite perle.
Oui, le musicien jazz Boris Vian a souligné combien le tube est une mécanique bien rodée. Il l'a fait dans le texte de cette chanson qu'il a écrite pour Henri Salvador en 1957. Sobrement intitulé d'ailleurs Le Tube.
V'là les accessoires pour faire un succès. Une rue, un trottoir, une moume bien roulée. Un gars, chandail noir et cheveux collés. Rengaine qui traîne, ni triste ni gay.
Boris Vian expliquait, vous nous l'avez dit, hein, qu'un tube, ça sonnait creux, façon de souligner la vacuité des chansons de l'été. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire que le tube de l'été, c'est forcément quelque chose qui ne dit pas grand-chose ?
Alors, quelque part, c'est vrai, et en même temps, c'est faux. Parce qu'effectivement, bon, on ne peut pas dire qu'il y ait une recette pour faire un tube assuré, mais il y a des ingrédients pour le tube de l'été.
Lesquels ?
Le tube de l'été, ça doit être quelque chose de léger, qui concerne tout le monde, des thèmes pas trop graves, musicalement, une musique facile qui se retient. Mais il y a des exceptions. Je pense par exemple à la chanson de Barbara, L'Aigle Noir, qui a été un énorme tube pendant l'été 70, et qui quand même traitait du thème de l'inceste. Ça prouve bien que un tube n'est pas forcément, obligatoirement à chaque coup, une chanson un peu cucupraline, si vous me passez l'expression.
Alors j'ai découvert en lisant votre livre, Alain Pozzioli, dans les années 60 et 70, les tubes de l'été étaient souvent des slow, ou en tout cas des chansons faites pour danser à deux, hein, dans la torpeur de l'été. Et en 1961, Stéphanie Loire, le titre qui s'impose au sommet des hit-parades porte des chaussettes noires.
Oui, cette chanson, c'est l'histoire de cinq jeunes musiciens français biberonnés au rock américain. Et pour faire encore plus américain, leur chanteur, qui s'appelle Claude Moine, décide de se rebaptiser Eddie Mitchell, et avec Daniela, il va faire danser toute une génération au mal d'exotisme US.
Oh Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh Daniela, pourtant ne crois pas que tu peux. Oh Daniela, jouer avec l'amour sans risquer.
On vient de l'entendre avec les chaussettes noires. Dans les années 60, il y a une très grosse influence en France de la musique américaine. Et en 1963, il y a un garçon qui est très intéressant, qui va faire un tube en reprenant le célèbre Summertime Blues d'Eddie Cochran. Ce garçon s'appelle Danny Logan et il chante Le soleil de l'été, un titre qui rappelle que pendant que certains sont en vacances, eh ben, y en a qui bossent.
Et ça devrait être interdit, ça ne devrait pas exister. De travailler jour et nuit quand au dehors c'est l'été. Et quand je veux danser, le patron me dit:
non, mon garçon, boulot jusqu'à minuit.
Toujours le travail, jamais s'arrêter, je ne vois jamais le soleil de l'été.
Alain Pozzioli, dans les années 60, un tiers de la population française avait moins de 20 ans. Et ces jeunes gens avaient souvent deux possibilités, travailler ou bien s'ennuyer ferme pendant l'interminable été. Est-ce que c'est grâce aux jeunes gens que l'on consommait autant de musique dans notre pays ?
Oui, oui, c'est sûr que c'est la génération des 60s, des gamins qui avaient 15-16 ans à l'époque, qu'on a eu une consommation énorme de musique, parce que les moyens de l'écouter aussi ont changé. Il y a eu le Tepaz, qui était un tourne-disque portable, il y a eu le transistor, et grâce à ça, on pouvait écouter la musique n'importe où. On n'était pas obligé d'aller dans une boîte ou dans un café pour écouter le jukebox. On avait sa musique chez soi. Donc c'était très consommateur en fait de disques, de 45 tours. À l'époque, c'était surtout les 45 tours, parce que les albums, on n'en faisait pas beaucoup, ou en tout cas, il y avait que les grosses vedettes qui en faisaient.
Alors, on va avancer un peu et prendre avec vous, Stéphanie Loire, la direction des années 70, parce qu'en 1975, juste après le choc pétrolier, la France est plongée dans une crise économique épouvantable, qui fait plus d'un million de nouveaux chômeurs en un an. Et c'est à ce moment-là qu'un certain Joe Dassin va raconter en musique le souvenir d'une France qui n'existe malheureusement déjà plus.
Et oui, en 1975, Joe Dassin chante « L'été indien ». C'est un texte qui fait le récit d'une ancienne histoire d'amour sur fond de couleurs automnales de la côte est américaine. Ce sera le slow de l'été 1975 et le plus grand succès de Joe Dassin aussi. Le titre sort dans 25 pays. Le 45 tours se vend à plus de 800 000 exemplaires en France et quasiment 2 millions dans le monde.
Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Alain Pedioli, comment expliquez-vous que ce titre ait séduit à ce point la France qui était un peu déprimée dans les années 70? Est-ce que ça va au-delà du simple romantisme français?
En fait, je crois que le succès de cette chanson, c'est qu'elle a... Elle réunit tous les clichés qu'on peut avoir sur l'idée d'un disque de vacances. On entend la mer, c'est un slow. Enfin, il y a vraiment tout l'arsenal pour faire un tube de l'été, et ça l'a été, tu sais.
Alors, vous parlez à l'instant de clichés. Hein, Joe Dassin fait un tube incroyable avec cet été indien. Mais quelques mois après, un humoriste, Guy Bedos, va lui répondre. Il va lui répondre en chanson, en pastichant l'été indien dans une adaptation, comment dire, très libre et totalement irrésistible. Écoutez, ça s'appelle Le tube de l'hiver.
C'était l'hiver. Évidemment, puisqu'on était en décembre. Je me suis jamais autant pelé que ce matin-là. C'était l'hiver. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Mais dans la chanson, comme on s'adresse à des débiles, on répète les trucs plusieurs fois. C'était l'hiver. Un hiver comme il n'en existe que dans le bassin parisien, en banlieue est, quand on habite Pont-au-Combo, allée des Mimosas, et que la veille il a fallu se taper le métro jusqu'à la porte de Vincennes, attraper l'autocar conduit par un chauffeur alcoolique qui te fait gicler 12 bornes plus loin, en pleine nature, et qu'on en a encore 6 à se farcir à pattes, de la gadoue plein les baskets, pour retrouver la piole dégueulasse. Où tu m'attendais, mon amour. Avec ton peignoir crasseux, tu ressemblais à une eau forte de Jérôme Bosch quand il se laissait aller à barbouiller n'importe quoi, n'importe comment, les soirs de déprime.
Et puis cette année, Stéphanie, en 2022, c'est Kate Bush qui est devenue numéro 1 aux États-Unis grâce au succès d'une série.
Ouais, cette série, elle est diffusée sur Netflix, c'est Stranger Things, et elle a offert un coup de projecteur à un titre de Kate Bush auprès d'un nouveau public. 30 ans plus tard, ce titre, c'est Running Up That Hill, et il se paie un gros coup de jeune. Il fait un retour fracassant au sommet du top iTunes et Spotify grâce aux fans de cette saga qui sont empressés d'écouter la chanson en boucle après l'avoir entendue dans cette série qui a pour toile de fond les années 80.
Bon alors, Alain Pozzoli, on est à la veille de la rentrée. Hélas, on a un peu le moral dans les chaussettes, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce qu'on peut écouter pour se donner un peu de baume au cœur avant de cirer son cartable et de reprendre le chemin du boulot?
Bah, y a les grands classiques. Moi, je pense, pour moi, le tube de l'été, le plus évident, c'est la chanson de Procol Harum, What a Shade of Pale, qui n'a pas pris une ride, qui était sortie en 67 et qui a été un carton dans le monde entier. We skip the line.
Allez, on vous remercie infiniment pour vos conseils, vos prescriptions, et on vous souhaite bon courage.
Merci.
Pour la rentrée. Merci infiniment. Voilà, ainsi s'achève notre joyeuse épopée estivale. Elle a été préparée, comme chaque semaine, par Clémentine Boulard et mise en onde par Julien Blanc. Merci infiniment à vous, chère Stéphanie Loire, de m'avoir accompagnée pendant tout cet été. Ça a été un très grand plaisir de pédaler avec vous.
Eh bien, c'était un plaisir partagé d'aller sur les sentiers de la culture à vos côtés, Bruno Donnet.
Après les infos de 10h, vous allez retrouver le clap de Laurie Choleva. Et sachez que vous pouvez bien sûr retrouver tous les épisodes de Tandem en podcast. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, s'il vous en reste. Et je laisse le mot de la fin à Dalida, qui est porteuse d'un message de pièce à peine subliminal.
Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse.